Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radion et vous avez bien raison, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission au cours de laquelle nous réécouterons quelques extraits d'entretiens déjà diffusés. Nous réentendrons notamment l'historien Patrice Guénifé évoquer Napoléon. Vous savez que 2021 va être une grande année autour de la figure de Napoléon Bonaparte, puisque nous allons commémorer le bicentenaire de sa mort. Bonaparte nous a quittés le 5 mai 1821. Et puis, nous aurons aussi le plaisir de réentendre Alexandre Labruffe, que j'avais rencontré d'ailleurs lors de la 13e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon, fin septembre de l'an dernier. Alexandre Labruffe, qui était venu présenter un récit intitulé « Un hiver à Rouen ». Oui, Rouen, vous l'avez bien entendu. C'est le nom de la ville chinoise d'où est partie la pandémie qui nous accable tant en ce moment. Et Alexandre Labruffe, qui connaît bien la Chine, a effectivement écrit un texte poignant, un texte coup de poing sur cette pandémie, mais aussi sur les mœurs chinoises et sur le succès économique de ce pays. C'est tout à fait édifiant. C'est à découvrir dans Wagon Livre aujourd'hui. Et puis, je voudrais ouvrir cette émission en évoquant, bien évidemment, la rentrée littéraire d'hiver. Une rentrée littéraire d'hiver qui promet tout de même 493 nouveaux romans. Les libraires, eux, vont accueillir quelques 340 titres français au cours de ce mois de janvier et en février prochain. C'est un niveau légèrement supérieur aux deux années précédentes, selon le baromètre du magazine professionnel Livre Hebdo. Parmi eux, 63 premiers romans en léger retrait. Quant à la littérature étrangère, elle s'enrichira de 153 nouvelles traductions. Comme en août-septembre 2020, aucune thématique particulière ne se détache de cet ensemble d'ouvrages où l'on retrouve des destins brisés, des histoires de famille, quelques romans uchroniques ou d'anticipation parmi les sempiternels romans témoignages ou récits d'inspiration autobiographique flattant les obsessions bien-pensantes de notre époque. Alors inévitablement, il y a les têtes d'affiche de cette rentrée littéraire d'hiver. Notons le roman de l'académicien Patrick Grinville qui met en scène Picasso et Nicolas de Staël à Antibes dans les années 50 dans un roman intitulé « Les yeux de Milos » et c'est aux éditions du Seuil. Celles et ceux qui admirent Maria Cazares se plongeront avec délectation dans le roman de Anne Plantagenet, roman où effectivement Maria Cazares tient une place centrale. Le titre de ce roman, l'unique Maria Cazares, c'est chez Stock. Maria Cazares qui a bénéficié d'un regain d'intérêt après la publication de sa correspondance avec Albert Camus. Vincent Duluc, lui, s'intéresse à Carole Lombard et à Clark Gable, un couple au destin glamour et tragique, roman intitulé « Carole et Clark », et c'est également chez Stock. Alors ensuite, il y a les membres de l'Académie française. Je mentionne le dernier roman de Jean-Marie Rouard de l'Académie française, roman intitulé « Ils voyagèrent vers des pays perdus ». Alors là, on retrouve De Gaulle, Pétain, Kessel et Druon qui vivront une époque picaresque inédite où l'auteur, précise l'éditeur Albin Michel, je cite, « s'interroge sur l'histoire et ses folies ainsi que sur certaines énigmes troublantes de la résistance et de la collaboration ». Autre romancier membre de l'Académie française, Andrei Makine, qui propose un roman d'inspiration autobiographique, roman intitulé « L'ami arménien » qui se déroule en Sibérie, berceau de l'écrivain, un récit où le Benjamin de l'Académie convoque une double nostalgie selon Grasset, son éditeur. On l'a vu et entendu récemment à la grande librairie, à la télévision, c'est Bernard Pivot, ex-patron de l'Académie Goncourt, qui a abandonné à 85 ans ses ouvrages sur la langue française pour esquisser son autoportrait dans « Mais la vie continue », c'est chez Albin Michel. Chantal Thomas revient sur le devant de l'actualité littéraire avec un roman intitulé « De sable et de neige ». C'est un roman disponible en librairie aux éditions du Mercure de France. Et dans ce texte, elle évoque son père et explore sa mémoire, nous offrant, je cite, « un bouleversant autoportrait campé entre les plages de son enfance à Arcachon, au Cap Ferret et la ville de Kyoto ». Aujourd'hui, Sylvie Germain, elle fait paraître une fiction où elle met en scène des personnages pris dans une valse mélancolique éphémère constellation de vivants. C'est chez Albin Michel. Florence Aubenas publie et fait un retour remarqué avec L'inconnu de la poste. C'est une enquête sur le meurtre d'une postière. C'est à paraître courant février prochain aux éditions de l'Olivier, les éditions de l'Olivier qui vont d'ailleurs fêter cette année leur 30e anniversaire. Et puis, dans la rentrée littéraire, un invité de dernière minute et de marque, c'est Julien Gracq qui, 14 ans après sa mort, revient avec un superbe inédit fait de subtil vagabondage. Le texte a pour titre « Nœud de vie ». C'est un texte exhumé par les éditions Corti et qui est disponible en librairie depuis le 7 janvier dernier. Bien sûr, une actualité littéraire que l'on doit surveiller parce qu'il y a un très 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 grand nombre d'auteurs, je vous dis 493 nouveaux romans. Excellente fin de matinée à toutes et à tous en écoutant Radion et à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. On marque une première pause musicale et nous nous retrouvons dans une poignée de minutes pour la suite de notre rendez-vous.
Je t'ai pas tout dit. Je pars de Paris, perdu mon pari. Je change de vie. Je veux pas ton avis. Je quitte le navire. Oui, je prends le large. Sois barge et suis-moi. Tu m'as fait l'échapper. Pas de glace, je sens l'impasse, je passe à l'action, là je tourne en rond, fais tomber le masque et lis le fantasque, oui je tente ma chance, avance et suis-moi, je me fais l'échapper belle, échapper belle avec toi. On sera des hors-la-loi. Une jolie parenthèse, parenthèse avec toi. On filera à l'anglaise. On se cachera dans les échelle. On sera des hommes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
L'année 2021 sera en histoire une année Napoléon. Encore, diront certains, tout dépend en réalité de la façon de traiter un même événement. Napoléon étant mort le 5 mai 1821 à 17h49, plusieurs historiens reviennent logiquement sur cet anniversaire. Je mentionnerai des ouvrages sortis d'ailleurs récemment. Le récit de la vie de Napoléon à Sainte-Hélène par Pierre Branda, c'est aux éditions Perrin. Pour les amateurs toujours de l'épopée napoléonienne, toujours chez Perrin, mentionnons l'histoire des 100 jours par Charles-Éloi Vial, ainsi qu'une biographie d'Eugène de Beauharnais, fils et vice-roi de Napoléon. C'est aux éditions Talendier. On va, si vous le voulez bien, s'arrêter sur la naissance et les origines sociales de Napoléon en réentendant un extrait d'un entretien enregistré en mars 2017 à Dijon avec l'historien Patrice Guénifet qui, cette année-là, présentait un essai intitulé « Napoléon et de Gaulle, deux héros français ». C'est vrai que ce sont des héros préférés des Français, Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, qui incarnent la figure du sauveur, la figure aussi de l'homme providentiel. Écoutons Patrice Guénifet évoquer la jeunesse de Napoléon et donc ses origines sociales. Vous le savez, bien sûr, Napoléon, c'est la Corse. Patrice Guénifet.
C'était des Corses qui, à l'origine, étaient des Génois envoyés dans l'île pour l'administrer. Donc ces Génois avaient fondé la plupart des villes côtières corses. Bastia, Ajaccio, Calvi, tout ça, ce ne sont pas des villes corses. Bien sûr, par les mariages, la famille était devenue corse, puisque une partie des alliances se faisait dans les villages de l'intérieur de l'île. Mais en même temps, cette petite bourgeoisie des villes côtières, qu'on appelait les présides, ne se voyait pas comme des Corses. Ils parlaient le génois. Et même si les liens s'étaient distendus avec la métropole génoise, néanmoins, ils continuaient de se croire italiens, ils envoyaient leurs enfants faire leurs études en Italie. Et lorsque le roi de France a succédé au doge de Gênes comme propriétaire de l'île, eh bien leur loyauté est passée de Gênes à la France. Et c'est le cas notamment du père de Napoléon, Charles Bonaparte, qui a combattu avec Paoli contre les Français au moment de l'invasion de 1768 et qui, sitôt que Paoli a perdu la guerre, est allé présenter ses hommages au gouverneur français de Lille et s'est appliqué à obtenir des bourses pour que ses enfants puissent faire de bonnes études, non plus en Italie, puisque la Corse était devenue française, mais en France, sur le continent.
Alors on peut comprendre pourquoi les héros, alors c'est un dalien balzacien, enfin les héros du plutôt première moitié du 19e siècle ont été tant en admiration devant l'ascension fulgurante. Oui. Rappelons, Napoléon est général à 24 ans, empereur à 35 ans et il meurt à 51 ans.
51
alors
ans.
On y reviendra parce que j'allais dire la carrière historique de De Gaulle commence à peu près
commence
à cet âge-là,
ce
en 1940,
oui,
De Gaulle à 40.
Oui.
Mais Napoléon, c'est un parcours exceptionnel.
C'est une ascension extraordinaire, puisque c'est vraiment, il part de rien pour arriver aussi haut qu'en son temps on pouvait arriver. Empereur, maître de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup d'autres destins comme celui-là. Il y a Alexandre le Grand, César, bon, quelques autres, mais il n'y a quand même pas grand monde dans cette catégorie. Alors, il peut le faire grâce à un talent particulier. C'est un jeune homme génial, qui d'ailleurs n'est pas conscient de ses capacités. Il les découvre à mesure de son ascension. Et au fond, il découvre, plus il monte, plus il découvre qu'il peut monter encore plus haut. Et puis aussi, c'est grâce aux circonstances, parce qu'il a eu la chance de naître en 69, donc d'avoir 20 ans en 1789, quand la Révolution commence. C'est une période de grand désordre, de grand chambardement. Donc pour les jeunes gens bien nés, c'est le meilleur contexte qu'on puisse imaginer, parce que si on est intelligent, courageux, entreprenant et qu'on n'a pas trop de scrupules, on peut bâtir une fortune considérable. Fortune, il y en a qui le feront avec de l'argent, et lui, il le fera avec de la gloire.
Je reviens, votre livre est absolument passionnant puisque vous montrez aussi les liens entre la plume et le sabre, que ce soit pour De Gaulle comme pour Napoléon. Oui, et de Napoléon, finalement, il fait des fautes d'orthographe et à une époque, on suppose qu'il ne maîtrise ni à l'écrit ni à l'oral, il ne maîtrise pas si bien que cela le français.
Je crois qu'il l'a, bon, on ne saura jamais, mais je crois qu'il parlait assez mal. Et on a des témoignages, mais venant souvent de gens un peu malveillants, mais qui néanmoins disent qu'il il mélangeait les mots. Il disait « rente voyagère » pour « rente viagère »,« amnistie » pour « armistice ». Voilà. Quand il parlait de Thucydide, il disait « Thucyglide », « Thucyglide », mais bon, ça, tout le monde peut faire l'erreur. Donc, il mélangeait probablement les mots, c'est-à-dire qu'il avait sa langue parlée était mêlée d'italianisme. Mais en même temps, on n'a pas une lettre de lui en italien. Il a toujours écrit en français. Il avait appris le français sur le continent à petite école et grâce à une bourse royale. Et donc, il a toujours écrit uniquement en français, même si probablement il le parlait avec un très fort accent, donc mélangeant un peu les mots. Mais à l'écrit, il n'y a pas vraiment de faute de syntaxe. Il y a des fautes d'orthographe. Mais à cette époque, tout le monde fait des fautes d'orthographe. L'orthographe n'est pas réellement fixée encore. Et j'ai consulté d'autres papiers d'anciens révolutionnaires. Et franchement, il ne fait pas plus de fautes qu'eux. Mais quand il relit les dictées, eh bien, il est capable de corriger une faute de français.
Alors, ce parcours exceptionnel, vous l'avez dit, est lié aux circonstances. Est-ce à dire que si la France n'avait pas connu sa révolution de 1789, est-ce que sous l'Ancien Régime, issu de Corse, est-ce que le jeune Napoléon aurait réussi à s'élever socialement dans la société d'Ancien Régime ?
Très difficile, parce que d'abord il y avait des lois depuis quelques années avant sa naissance qui barraient l'avancement dans l'armée et le réservaient à la noblesse qui possédait une certaine ancienneté. Alors la famille Bonaparte se disait noble, mais ça ne pouvait être qu'une petite noblesse tout à fait récente et d'origine italienne qui ne lui aurait pas permis de monter les grades. Et puis d'autre part, dans ce monde où la carrière politique n'était pas ouverte, bon ben il aurait fait ce qu'il voulait faire étant jeune, c'est-à-dire devenir un notable à Ajaccio, prendre le pouvoir si possible et puis en faire profiter sa famille. C'était ça son ambition au départ. Ce sont les Corses qui lui ont donné un destin en le jetant dehors et en l'obligeant à fuir l'île. Après une rupture avec Paoli, toute la famille a été obligée de s'enfuir sous peine de subir un très mauvais sort. Et il est tombé sur le continent en pleine guerre civile en 93, au moment de la terreur. Et au moment où on avait besoin de militaires, d'officiers, parce que beaucoup d'officiers de carrière avaient émigré, avaient refusé de prêter serment à la Révolution, étaient partis. Alors il y avait plein de places qui étaient offertes et c'est ce qui explique tous ces généraux de 25 ans. Parce que les places étaient à prendre et les carrières allaient vite, si on avait un peu de talent.
Oui, les roturiers ont pu...
Voilà, ils montaient les grades et ils montaient très vite. Je ne sais plus lequel, l'âne est général à 23 ans, 22 ans.
Et venant de milieux sociaux assez modestes.
Bien sûr, l'âne est fils d'un domestique, Murat d'un aubergiste. Donc ils viennent de milieux très modestes. Mais ils tombent en pleine guerre civile et guerre étrangère. Donc les occasions de s'illustrer sont légion. Et ça explique ces jeunes gens qui ont des ascensions phénoménales.
À l'instant, l'historien Patrice Guénifé, enregistré en mars 2017 à Dijon. Patrice Guénifé qui signait alors « Napoléon et De Gaulle, deux héros français », c'est aux éditions Perrin. On réentendra Patrice Guénifé dans quelques minutes. Je vous l'ai dit, 2021 sera l'année Napoléon. Imaginez à l'occasion donc du bicentenaire de la mort de l'empereur. Cette année 2021 promet d'être inoubliable, selon l'expression de la Fondation Napoléon à la manœuvre pour ses commémorations. Alors partout en France, musées, dont le château de Fontainebleau ou la maison Bonaparte à Ajaccio, centres d'archives, BNF et villes impériales ont annoncé des événements autour de cette figure historique. La commune de Waterloo et les domaines nationaux de Sainte-Hélène ne sont évidemment pas en reste. L'île où décéda Napoléon, je répète, le 5 mai 1821, prévoit de grandes cérémonies religieuses et autour de la tombe les 5, 6 et 9 mai. Même le Chili, en mémoire des 2000 militaires napoléoniens ayant participé aux luttes de l'indépendance de l'Amérique latine, sera de la partie. Alors le programme des festivités est d'ailleurs difficile à résumer tant il est riche. Il s'accompagne de dizaines de publications, dont plusieurs biographies. Tous les grands lieux napoléoniens s'apprêtent à jouer le jeu du bicentenaire et l'association Le Souvenir Napoléonien, créée en 1937, a mobilisé ses délégations pour faire vivre la mémoire de l'empereur. Alors dès que la crise sanitaire s'éloignera, cela sera une déferlante Napoléon. Avec son musée dédié, Fontainebleau a imaginé un parcours, des visites théâtralisées sur le Premier Empire, courant mars prochain, et un grand week-end de reconstitution historique, les 17 et 18 avril. À Paris, les Archives nationales, la BNF, la Fondation Dône Thiers ou le Musée de l'Armée seront en première ligne avec colloques et conférences et une grande exposition aux Invalides, Napoléon n'est plus, qui ouvrira aussi un parcours d'art contemporain, Napoléon encore. Le Musée national de la Malmaison annonce un travail autour du vrai visage de l'empereur. Celui de l'île d'Aix propose une exposition sur les dictées de l'empereur. On imagine en tout cas qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, féru d'histoire et de grandes figures historiques, ne ratera pas la célébration de la commémoration du bicentenaire le 5 mai prochain. Pour l'heure, pause musicale, on se retrouve dans une poignée de minutes. Merci d'être avec nous, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion.
Reste là, ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent.
Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayez de se persuader que ce n'était pas si bon.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous en cette fin de matinée sur Radion pour votre rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, nous allons réentendre un entretien enregistré courant mars 2017 avec l'historien Patrice Guénifé, qui a publié un grand nombre d'ouvrages sur l'Empire, hein, la fin des empires, les derniers jours des rois et histoire de la Révolution et de l'Empire. Il a aussi signé un Bonaparte 1769-1802, le 18 Brumaire, et également La politique de la terreur, un essai sur la violence révolutionnaire 1789-1794. Patrice Guénifet revient pour nous dans l'entretien que vous allez entendre sur Napoléon. Napoléon qui, effectivement, laisse une trace contrastée, bien évidemment, en cette année où nous allons fêter le bicentenaire de sa mort. Il y a eu, certes, des conquêtes militaires, il y a eu des défaites, il y a aussi tout ce que l'Empire napoléonien a laissé à notre société française et qui reste encore utilisé chaque jour, hein, que ce soit en économie, même d'un point de vue juridique, je pense au code civil, le système préfectoral, les lycées, le système fiscal, la Cour des comptes ou la Chambre des notaires. Bref, Napoléon, ce n'est pas qu'un conquérant, ce n'est pas qu'un militaire, même si, comme Patrice Guénifet l'explique, l'armée a joué un rôle fondamental dans sa vie. Patrice Guénifet.
Je crois que l'armée, c'est sa famille. Voilà. Il a, après tout, été élevé dans un collège militaire à Brienne. C'était une bourse pour intégrer un collège militaire. Il était destiné à la profession militaire. Ensuite, il a intégré la prestigieuse école militaire de Paris. Et à 17 ans, il s'est retrouvé sous-officier dans un régiment à Valence. Voilà. Donc, toute sa jeunesse s'est passée dans l'armée. Il a eu plus de contact avec l'armée qu'avec sa propre famille, puisque entre l'âge de 9 ans et l'âge de 17 ans, il n'a pas vu ses parents. Il était sur le continent, on ne retournait pas si facilement en Corse pour les vacances à cette époque. Donc, il est un produit de l'armée royale, tout en étant devenu indépendantiste corse à l'âge de l'adolescence, mais néanmoins toujours fier de cet uniforme. Et par la suite, il a appris dans cette familiarité avec l'armée à parler aux soldats, à s'adresser à eux, les gestes qui font que le chef est aimé. Et alors, il était très dur avec ces hommes. Et en effet, il n'hésite jamais à les sacrifier, à les entraîner dans des manœuvres de casse-cou où les risques sont quand même très grands. Mais ces soldats l'aiment parce qu'il tire d'eux le meilleur. Il les oblige même à être meilleurs qu'ils ne pourraient être. Et ça, ça comptait pour beaucoup. Et puis, il savait, avant le combat, aller au bivouac, s'asseoir près de ses hommes. Plus tard, il leur tirera l'oreille, bien sûr. C'était le geste qu'il avait pris. Mais aussi, il décroche une médaille qu'il a sur sa redingote.
Légion d'honneur.
Légion d'honneur. Ouais. Et il le raccroche sur l'uniforme. Donc, des petits gestes qui étaient très, très appréciés des soldats. Et puis, il a conçu très tôt un système de fiches. Il a une mémoire phénoménale, hein, il se rappelle absolument de tout. Donc il a des fiches sur lesquelles est l'historique de chaque bataillon. Donc il sait quand il va visiter, ça a l'air spontané, mais en fait ça ne l'est pas. Il sait quand il va visiter un bataillon, quand il passe devant, il a en mémoire ce qu'ils ont fait. Et il peut ainsi s'adresser à un soldat et lui dire « Ah oui, mais vous étiez à tel endroit, vous vous êtes illustré, vous êtes les braves parmi les braves. » Et après la bataille, il sait magnifier les exploits.
Voilà. Alors, on va parler bien sûr du général de Gaulle, oui. Mais pour l'instant, j'ai choisi qu'on aborde la carrière exceptionnelle de Napoléon. Alors, bien sûr, il n'y a pas unanimité, il n'y a pas forcément admiration autour
au contraire, de la
carrière politique et militaire de Napoléon, puisque c'est aussi le tyran, celui qui a meurtri la France.
A perdu les conquêtes de la Révolution, qui a laissé 1,5 million de morts derrière lui. Donc, forcément, il n'a pas que des admirateurs.
Hein. Et alors, il y a, vous l'avez dit, souvent une comparaison un peu rapide entre Napoléon et Hitler.
Oui, que je trouve absurde. D'abord, si on compare les deux héritages, Hitler n'a rien laissé. Des ruines. Des ruines. Napoléon a laissé un héritage considérable. Certes, il a perdu les conquêtes militaires de la Révolution, mais qui probablement aurait été perdu même si l'histoire de Napoléon s'était bien terminée. Parce que après tout, certaines conquêtes comme la Belgique ne pouvaient pas être gardées par la France. Les Anglais n'auraient jamais accepté ça. Mais il a laissé un héritage considérable en matière civile. Le code civil, le système préfectoral, les lycées, le système fiscal, la Cour des comptes, notre système de tribunaux, etc. Donc tout l'ordre des notaires, bon, absolument tout ce qui a structuré la France moderne et contemporaine, vient de cette période de l'Empire. Donc du point de vue des héritages, on ne peut pas les comparer. L'autre chose, c'est que Hitler, on ne peut pas dire qu'il soit le produit de la civilisation européenne. Il s'est dressé contre elle. Ensuite, de l'autre côté, Napoléon, c'est l'enfant du XVIIIe siècle. Et il le restera d'ailleurs, même couronné empereur, c'est-à-dire roi, néanmoins il reste l'héritier de la Révolution. Il garantit les conquêtes de la Révolution, notamment la vente des biens nationaux, il accepte que l'Église revienne, mais pas comme Église propriétaire, etc., etc. Donc il reste un enfant du XVIIIe siècle avec les idées du XVIIIe siècle. Alors certes, il est passé de Rousseau à Voltaire, mais Voltaire, c'est encore les Lumières.
Donc effectivement, vous le montrez sous la plume de certains. Alors certains le détestent, Chateaubriand parle de lui comme le fatal étranger, le ravageur. Taine dit que l'empereur est un monstre. Donc il n'y a pas unanimité
autour
de Napoléon.
C'est-à-dire que les libéraux ne l'aiment pas. Et aujourd'hui encore, les gens qui se définissent comme libéraux, parce qu'ils voient en lui celui qui a aggravé des tendances présentes depuis Louis XIV, c'est-à-dire la centralisation du pouvoir en France, la toute-puissance de l'administration. Et tout ceci fait qu'on le voit comme quelqu'un qui a été peu favorable. Il a été peu favorable, en effet, à la liberté, continuant une vieille histoire française. Et tous ceux qui ont souhaité plus de liberté individuelle, une société plus émancipée de l'État, un moindre rôle de l'État, un État qui contrôlerait moins les choses, qui s'occuperait moins de choses, par exemple un État qui s'occuperait plus de l'économie, etc. Eh bien, tout ce courant-là n'aime ni Louis XIV, ni Napoléon, ni De Gaulle, qu'il voit comme autant d'étapes d'une sorte de pathologie française et d'incapacité française à devenir libre et adulte.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, et vous le montrez aussi bien pour Napoléon comme pour De Gaulle, c'est qu'une fois morts, ces grands hommes, posent un peu problème. C'est-à-dire leur faire des hommages nationaux, avec l'accord de la famille ou pas. Bon, pour Napoléon, c'était en plus assez difficile pour le pouvoir en place d'accepter le retour des cendres de Bonaparte sur le sol de France.
C'était difficile à l'époque pour les deux camps, pour la droite et pour la gauche. Pour la droite, parce que la droite était royaliste, donc Napoléon restait le symbole de la Révolution et de la Révolution qui avait décapité Louis XVI. En plus, c'était pour elle un usurpateur qui avait pris la place du roi légitime. Et pour une partie de la gauche, Napoléon restait comme celui qui avait mis un éteignoir sur les libertés, et notamment sur les libertés parlementaires. Et donc, on ne lui rendait hommage ni à droite, ni à gauche. La seule chose qui réconciliait relativement, c'était le souvenir de la gloire nationale. Les guerres, les conquêtes, pas Waterloo, bien sûr, mais Austerlitz, voilà. Et puis, pour De Gaulle, ça a été différent. Il a été, lui aussi, détesté à la fois à droite et à gauche. À gauche, à cause de le pouvoir personnel.
Le coup d'État permanent.
Le coup d'État permanent, 10 ans, ça suffit, de 68. Et à droite, il a été dénoncé par une fraction de la droite, celle qui ne lui pardonnait pas Vichy. 1940 plutôt, l'appel du 18 juin, et celle qui ne lui pardonnait pas la manière dont il avait mis fin à l'Algérie française. Donc tous les deux ont été controversés. Napoléon, au fond, n'a jamais réconcilié. Il a encore aujourd'hui des détracteurs. En revanche, De Gaulle est devenu une sorte de saint laïc, de père protecteur.
L'historien Patrice Guénifé, enregistré en mars 2017 à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. On le retrouvera juste après l'intermède musical que nous allons vous proposer. Excellente fin de matinée à toutes et à tous. C'est Wagon Livre sur Radio. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas, ou t'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta
marinière. Je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais un beau retour miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant, viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors courons sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer. Ta mère à boire, ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin prêt à rester sur terre que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que ta mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Restons encore dans l'histoire de France avec Napoléon. Napoléon dont on commémorera en cette année 2021 le bicentenaire de la mort. D'ailleurs, la mort, Napoléon l'envisageait tout de même durant son exil à l'île d'Elbe. Et justement, dans son testament daté du 15 avril 1821, voici ce que Napoléon dicta. Je désire, et cette phrase est désormais célèbre, je désire que mes cendres reposent au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Alors, cette fois, aucun doute n'était plus permis, ce seraient les Invalides, car sur les bords de la Seine, il n'existait aucun autre lieu susceptible d'accueillir sa dépouille. Les Invalides, donc, pour Napoléon, Patrice Guénéfé.
Mais lui voulait absolument y être, il avait même fait entreprendre des travaux pour aménager une crypte où la famille Bonaparte trouverait son dernier domicile. Et puis, lorsqu'il a perdu le pouvoir, bien sûr, il a compris que Louis XVIII n'irait pas spontanément le mettre à Saint-Denis. Donc, il a envisagé divers endroits. Lyon, parce qu'il a toujours été très bien accueilli à Lyon. C'est lui qui avait ressuscité la ville, qui l'a reconstruite. Alors, il disait en dernier ressort, peut-être la cathédrale d'Ajaccio, où j'ai été baptisé. Et puis, bien sûr, il pensait à Paris. Mais pas question d'aller au Panthéon. Confondu avec le Tout-Venant. Et le seul lieu qui lui convenait, c'est celui qu'il désigne dans son testament en disant sur les bords de la Seine, c'est les Invalides parce que depuis Louis XIV, c'était le temple de la gloire militaire. Et au fond, sa vraie légitimité, elle était militaire depuis le début, c'était ses victoires. Et alors, on sait aujourd'hui que Louis XIV lui-même avait envisagé de se faire enterrer aux Invalides. plutôt qu'à Saint-Denis.
C'était à l'instant l'historien Patrice Guénifé, enregistré à Dijon courant mars 2017. Il avait été invité par le Club des écrivains de Bourgogne et il était venu présenter son essai intitulé « Napoléon et De Gaulle, deux héros français » aux éditions Perrin. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'intégralité de cette émission sur le site d'archives de Wagon Livre via internet www.yannickpetit.fr. Nous allons cette fois-ci partir en Chine à travers un entretien enregistré fin septembre 2020 avec Alexandre Labruf. Alexandre Labruf, né à Bordeaux en 1974, il est l'auteur d'un premier roman remarqué intitulé « Chronique d'une station-service » aux éditions Verticales en 2019. Et courant 2020, il a fait paraître, toujours chez Verticales, un texte intitulé « Un hiver à Wuhan », dans lequel, dans ce récit glaçant, drôle, récit coup de poing aussi, Alexandre Labruf y alterne les souvenirs de ses séjours en Chine, comme contrôleur stagiaire dans des usines locales, et surtout en tant qu'attaché culturel à Wuhan à l'automne 2019. Il recense les micro-apocalypses qui fondent le miracle économique de la République populaire depuis deux décennies et devient le témoin halluciné d'une crise sanitaire, le Covid, révélant sa nature libérale totalitaire. Alexandre Labruf.
Ouais, la première fois que j'y vais, alors je le raconte dans Un hiver à Wuhan, et parce qu'Un hiver à Wuhan, c'est un livre qui pourrait expliquer l'épidémie. Ma thèse principale, c'est que je suis le patient zéro. Non, c'est... J'essaie de faire émerger, en fait, dans ce livre, des explications de la catastrophe. Parce que quand je suis allé la première fois en Chine, je suis rentré dans la catastrophe de la mondialisation sauvage où j'étais envoyé à 21 ans, stagiaire, pour contrôleur qualité, pour vérifier des produits made in China, mais destinés à l'exportation en France, en Europe. Et c'était des cotons-tiges, bon, je le disais souvent, pour moi c'est un poème punk, un poème cyberpunk, puisque c'est des cotons-tiges, des tire-bouchons, un vieux poème punk.
Il y a les coques aussi, les fameuses coques, les coques plastiques transparentes, censées abriter des chocolats que l'on vend à Pâques en France.
Qui arrivent rayés en France. Et ma mission, et là je pense sauver le monde, révolutionner la qualité en France et évangéliser la Chine de cette obsession qualitative en fait. Je découvre le mystère des coques rayées, pourquoi elles arrivent rayées en France en fait, parce que la coque plastique était composée de deux parties, une opaque peinte en rouge et une autre transparente, et en fait quand le rouge était projeté pour nettoyer le rouge qui restait un petit peu sur les coques transparentes, ils utilisaient un cutter, et moi j'ai évidemment professé l'abandon du cutter au profit d'un solvant bien toxique. Non mais pourquoi je parle de catastrophe, parce que je rentre dans la catastrophe, parce que déjà je vois des ouvriers qui travaillent 13 heures par jour, 6 jours sur 7, qui sont payés 20 €. Je vois des usines déglinguées, des produits complètement, une consommation de produits fous, une consommation folle et une production aussi folle, dont l'origine est la folie productive et productiviste de la. Alors je le dis de manière assez ironique, puisque finalement je veille au paradis futile de la ménagère de moins de 50 ans. Oui. En fait, je suis le messie de son monde, c'est ce que je dis. Donc c'est les catastrophes que je vis, c'est l'impossibilité de contrôler les produits, parce qu'à chaque fois il y a des stratagèmes invraisemblables, on me saoule, on me drogue, on m'amène au karaoké, ou alors je vois un univers qui est déjà, en 1996, j'ai 21 ans, dévasté.
En tout cas, ce n'est pas très rassurant, puisque vous dites de la Chine que c'est un pays où on vit des micro-apocalypses régulières. Alors, ça commence déjà aussi, le livre « Un hiver à Wuhan » s'ouvre sur un ciel qui est invisible dans cette grande cité industrielle polluée, plus polluée que Paris. C'est terrible.
Ouais, Wuhan, Gotham City chinois, c'est comme ça que je l'ai surnommé, cité industrielle qui baigne dans un nuage de particules fines sur lequel les gens flottent ou pas. Et effectivement, le micro-apocalypse, c'est non seulement ce nuage de pollution, mais c'est aussi tout ce qui fonde le soi-disant miracle économique. Et d'ailleurs, tous les miracles économiques dont on nous parle et dont on nous vante, comme les dragons asiatiques, les catastrophes ont sont la source du miracle économique et de la croissance économique de la Chine. Moi, je les ai vécues parce que depuis 1996, j'en ai vécu plein. C'est par exemple quand un camion de produits toxiques se renverse dans la rivière. Je vivais à côté de Shanghai, à Hangzhou, et un camion de produits toxiques se tombe dans la rivière, un accident de la route, et du coup, l'eau potable est contaminée et même l'eau tout court, et je suis obligé de me doucher à l'eau minérale parce qu'on a des injonctions d'interdiction d'utiliser l'eau. Ça, c'est une catastrophe, une micro-apocalypse que je vis. Donc, je vis tout le temps dans la sidération. Sidération, c'est aussi quand je vois que voilà, on trempe le foie de garde canard dans le formol, ou alors ouais. quand je vois que le porc est contaminé par la peste, par la peste porcine, qu'on le tue à l'arsenic, mais qu'on le nourrit aux antibiotiques. D'ailleurs, je rends hommage dans mon livre au porc, au triptyque de leur tragédie. Ouais. Arsenic, antibiotiques et dans le désordre. Et quoi ? Et virus.
Et c'est un pays tout de même effrayant. Vous écrivez, la Chine s'affiche comme le nouveau monde, relègue l'Amérique aux oubliettes. Et un peu plus loin, j'ai relevé cette formule. Vous dites de la Chine que c'est le pays des merveilles horrifiques. Ouais. Joli oxymore.
Oui. C'est en effet. Alors c'est vraiment la vision à lui. Le récit d'un auteur halluciné dans une Chine hallucinée. Et qui préfigure cette Chine, notre avenir qui est radieux puisqu'il est pollué et en plus orwellien. Donc en effet, pourquoi je parle de merveille horrifique ? Parce que c'est évidemment ironique, comme l'ironie et la poésie, pour moi, c'est le seul moyen de surnager dans un monde qui se défait. Et la Chine est la préfiguration peut-être d'une défaite d'un monde merveilleux qui sera impossible à atteindre, en fait. Donc ça veut dire que je pense que la Chine, elle préfigure et pré-scénarise l'avenir, un avenir où la seule liberté sera celle de produire et de consommer. Et je le dis aussi, donc géré par un algorithme, parce qu'on y vient, qui est psychotique et qui rêve d'une humanité épouvantée, oui. Mais surtout productive. Ouais, parce que je crois que l'enjeu de la Chine, c'est en effet de prendre sa revanche sur le passé. Là, on est au 15e siècle, début. C'est l'amiral Zheng He, en fait, qui part faire des explorations du monde. Ils arrivent jusqu'au Moyen-Orient. Ils n'en font rien, c'est-à-dire qu'ils sont à la tête d'un empire en termes de navigation et ils frôlent l'Occident, ils caressent le Moyen-Orient, ils vont en Afrique, mais il ne se passe rien, c'est pacifique. Et ensuite, la Chine périclite. En plus, elle est fracassée par les guerres de l'opium et l'invasion des étrangers. Donc la Chine veut prendre sa revanche. Elle a aussi un horizon qui est contre l'Occident. Elle a un miroir. Dans le miroir, c'était votre question aussi précédente, dans le miroir, il y a... Elle se regarde, évidemment, elle regarde sa beauté future, mais derrière le miroir, il y a les États-Unis. Le nouveau monde, c'était les États-Unis, mais ce n'est plus le nouveau monde. La Chine s'affirme comme le leader du nouveau monde. Donc derrière le miroir, il y a les États-Unis, dans le miroir, il y a elle, il y a son avenir. Et dans le miroir, il y a aussi son passé qu'elle essaie de rattraper. Donc oui, boussole de l'humanité, et on le voit bien avec le virus, en fait. Et on voit bien que la Chine... qui clame zéro infection depuis 4 mois, elle s'affirme en leader de gestion de la crise.
Oui.
Elle s'affirme en boussole de l'humanité.
Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on a l'impression que c'est le pays du grand mensonge. Ça m'a rappelé un peu Goebbels. Plus le mensonge est gros, mieux il passe. Et c'est un peu la caractéristique de tous les pays totalitaires.
Non, je crois que c'est la caractéristique du marketing. On est dans le marketing. Mais c'est ce que je dis. La Chine est l'utopie réalisée du libéralisme et le paradis des marketeurs et du big data. On est dans un marketing. La Chine s'affirme en tant que grande puissance qui veut renverser les autres grandes puissances qui l'ont envahi. Donc elle prend sa revanche. Mais oui, totalitaire. Mais pour moi, c'est l'empire du libéralisme, d'un libéralisme totalitaire. Et ça, c'est clair et c'est certain. Et boussole de l'humanité. Et en plus, ce qui se passe actuellement, est-ce qu'elle ment pas ? Je ne sais pas. Parce qu'elle clame zéro infection. On peut en douter. Mais elle s'est bunkerisée. Les aéroports ne sont plus des aéroports. Il n'y en a plus que 3 d'ouverts. Et ce sont des hubs sanitaires. On est testé, je l'ai vécu, parce que je suis quand même retourné un mois et demi en Chine fin juillet pour essayer de commencer à retravailler. Là, je suis juste de passage, effectivement, dans ce festival et dans votre belle région. Et la Chine contrôle le retour des étrangers, des Chinois qui reviennent en Chine en les testant, les analysant. Et tout de suite, si vous êtes positif, vous avez un soupçon, vous finissez à l'hôpital. Moi, j'ai passé 14 jours en quarantaine à prendre 3 fois ma température dans un hôtel miteux à Shanghai où à 37,3, je paniquais. J'allumais la clim à fond pour faire baisser ma fièvre. Bon, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Le thé vert, c'est la bonne méthode. Mais bon, bref. Et du coup, elle s'est bunkerisée. Donc, on peut dire, effectivement, elle a peut-être réussi son pari de zéro infection. On peut en douter, vu que, de toutes les façons, les miracles économiques, mais pas que les miracles économiques, les démocraties aussi sont secouées de mensonges, oui. Comme le mensonge en France des masques. Donc oui, le mensonge, on peut en douter. Mais elle s'affirme en tout cas comme, on revient dans cette idée de miroir, comme elle est le Graal d'un Occident qui se désagrège. Et c'est comme ça qu'elle affirme à sa population. Quand j'y suis arrivé à 21 ans, effectivement, j'étais plutôt horrifié par l'expérience que j'avais eue de la Chine. C'est-à-dire que c'était une expérience chaotique. Je dis, les territoires du chaos en Chine étaient sans fin. Elles sont toujours sans fin. C'est une sorte de leçon de catastrophe et elle m'a préparé au pire. C'est vrai que moi, en tant qu'écrivain, je m'intéresse au pire. Je crois que le pire, est que je n'espère pas, et peut-être malheureusement à venir. Et je veux, je suis pas un lanceur d'alerte, mais je veux quand même... là, c'est une seringue, une piqûre que je lance cet ouvrage pour dire attention, moi, je veux pas de ce monde qui mixe Blade Runner et Contagion. En fait, je veux pas de ce monde-là. Et c'est aussi une sonnette d'alarme que je voulais tirer. Un roman glaçant, drôle, coup de poing que je voulais faire. Et Baudrillard, Baudrillard, c'est intéressant parce que lui, c'est le théoricien du simulacre, du vrai et du faux. Et la Chine, c'est quand même l'empire aussi, l'empire de la contrefaçon. Et oui. Quand il parle de nouveau monde, c'est vrai que les slogans apparaissent partout en Chine, les quartiers nouveau monde, on est aussi dans la contrefaçon du nouveau monde qui était les États-Unis en fait. Donc c'est aussi intéressant de réfléchir par rapport à ça. Quand je m'amuse aussi dans mon livre, là je vous laisse le plaisir de découvrir tout le jeu que j'ai fait avec le vrai et le faux, puisque c'est effectivement un récit où j'ai injecté un petit peu pour un peu stimuler la lecture de faux. De faux, ça peut être des citations détournées, par exemple, comme celle de Baudrillard. Mais bon, là, ce n'est pas une citation détournée. C'est effectivement où est la vérité, où est l'illusion, où est le réel, où est la fiction. Ces questions-là m'intéressent. C'est aussi la structure et le fil de mon roman. Mais c'est aussi notre monde actuel. Quand moi, je rentre en France, vous l'avez dit, je suis rentré en France en mi-janvier pour un festival littéraire. Je me suis retrouvé, je rentre de Wuhan en France. Je me retrouve bloqué et naufragé pendant 6 mois. Mais le premier mois, je reçois plein de vidéos de Wuhan où c'est des hommes qui tombent inanimés dans la rue. Et là,
France, à l'aéroport, aucun contrôle, rien du tout.
Non, aucun contrôle. Mais là, je suis déjà effaré, en fait. Si, Air France m'a contacté via le ministère de la Santé 1 mois après pour me dire « Attention, il faut faire une quarantaine ». Trop tard, j'étais revenu il y a une quatorzaine. J'étais revenu 1 mois avant. Mais du coup, ces vidéos-là qui surgissent d'arrestations sont vraies, sont fausses, sont vraies, je ne sais pas. En fait, on vit dans un monde où le vrai, où le faux petit à petit remplace le vrai. Donc Baudrillard est le maître dans ce jeu-là.
Alexandre Labruf, à notre micro, évoquait son récit paru aux éditions Verticales l'an dernier, récit intitulé « Un hiver à Wuhan ». Alexandre Labruf que j'avais rencontré lors de la 13e édition de Livre en Vigne fin septembre de l'an dernier. Ce wagon-livre touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez raté le début de cette émission, vous la retrouvez dans son intégralité sur le site d'archives www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Encore merci. Au revoir.